Richelieu, la grandeur de la France avant tout. Épernon pardonné ? Les protestants considèrent cet acte d'autorité royale inacceptable et, de leur place forte de La Rochelle, ils organisent la guerre civile. Jusqu'en décembre 1621, Louis XIII va remporter victoire sur victoire contre les cités qu'ils ont réussi à soulever. L'une est peu à peu écartée. Son indécision, sa lâcheté en certaines circonstances, le font tomber dans une demi-disgrâce, où vient le cueillir une fièvre pourpre le 15 décembre 1621. L'heure de Richelieu a sonné. Richelieu qui va mettre en œuvre une certaine idée de la France. La place est libre. Aussitôt, Marie de Médicis, qui n'est pas revenue seule aux affaires, impose à Louis XIII la présence de Richelieu. Il est officiellement admis au Conseil royal le 29 avril 1624. Le 13 août de la même année, il en devient non seulement le chef, mais demande à Louis XIII de ne confier les affaires courantes ou complexes qu'à un seul conseiller, lui-même. Voilà le cardinal définitivement installé dans la place. Il va pouvoir mettre en œuvre sa politique. Quelle est-elle ? Elle poursuit un double but : la restauration de l'autorité royale et l'affirmation de la force de l'État. Il veut faire de la France le pays européen le plus important, le plus riche et le plus respecté. Bref, le pays phare. Le roi doit se faire respecter à l'intérieur et redouter à l'extérieur.
Un cri. Les amours d'Anne d'Autriche, mariée pour des raisons d'État et qui demeure une étrangère aux yeux de Louis XIII, distant et froid, et de Georges Villiers, duc de Buckingham, Bouquinquant, comme l'appellent les Français, ont connu leur point culminant un soir de juin 1625. Ce soir-là, une grande fête est organisée à Amiens en l'honneur de la nouvelle reine d'Angleterre, Henriette, belle-sœur d'Anne d'Autriche. C'est le séduisant anglais Buckingham qui escorte Henriette. Il fait très chaud ce 14 juin. Le soir est tombé. La nuit enveloppe les recoins, les allées. La duchesse de Chevreuse envoie dans une de ces allées, sous quelque prétexte, Anne d'Autriche. Puis elle rencontre Bouquinquant, Buckingham, à qui elle conseille de prendre la même allée. Soudain, jaillit de l'obscurité un cri. C'est le cri d'Anne d'Autriche. La duchesse accourt et voit la reine dans un grand désordre qui tente de reprendre son calme. Que s'est-il vraiment passé ? À vous de l'imaginer. Vous avez une heure.
Première étape, l'édit de Nantes en 1598. Ce fut sans doute un édit qui ramena la paix, mais il a créé dans le royaume, selon la formule connue du cardinal, un état dans l'état. L'urgence consiste donc à attaquer cet état protestant, à le réduire au point qu'il ne constitue plus jamais une menace. Cette menace est bien réelle. Elle se situe surtout dans la ville de La Rochelle. Ce port, qui sert de refuge à de nombreux huguenots en des temps de troubles, reçoit l'aide des Anglais, toujours promptes à intervenir lorsqu'il s'agit de mettre en péril le pouvoir royal. Et qui sait ? Cette place forte pourrait bien devenir comme une seconde capitale, le bastion d'où les protestants, financés par l'Angleterre, pourraient en peu de temps s'emparer de tout le territoire, le roi d'Angleterre portant toujours le titre de roi de France. Il faut donc détruire La Rochelle. En attendant, le roi doit faire face à toutes sortes de rébellions ou de complots. Ainsi celui de son frère, Gaston d'Orléans, un perpétuel agité qui projette de prendre la tête du royaume, de supprimer Louis XIII et d'épouser Anne d'Autriche. Le marquis de Chalais, Henri de Talleyrand, fait partie de cette conspiration qui est éventée. Condamné à mort, Chalais est exécuté à Nantes 11 jours après le mariage fort joyeux dans cette même ville du vrai coupable, Gaston d'Orléans, qui, le jour du supplice, trouve plus prudent de se rendre à Châteaubriant.
Le supplice de Chalais. Chalais, Le conspirateur, à qui on a fait croire qu'il serait gracié s'il révélait tout du complot contre Louis XIII, va payer cher tous ses aveux. Il est condamné à mort et doit être exécuté à Nantes le 19 août 1626. Afin de retarder l'exécution, ses amis font enlever le bourreau. Qu'à cela ne tienne, on décide de le remplacer par un condamné. Un cordonnier tourangeau, qui doit être pendu 3 jours plus tard, accepte de jouer le rôle d'exécuteur. Pour lui, c'est une première. On lui prête une épée de Suisse qu'il ne prend pas le soin de faire affiler. Chalais vient au supplice, place du Bouffay, avec beaucoup de dignité et de sang-froid. Il dit au bourreau qui lui tend un bandeau pour ses yeux qu'il n'en a pas besoin et lui demande de faire vite. Hélas, Chalais pose sa tête sur le billot, le cordonnier lève l'épée qui retombe lourdement sur le cou du condamné. Déséquilibré par le choc, Chalais tombe sur le plancher de l'échafaud, le cou à peine entamé. Le bourreau aussitôt lui donne 3 coups moins violents, sans grand résultat. Les Nantais présents s'empressent de chercher un autre instrument. Pendant que Chalais, étendu, attend, un tonnelier apporte sa doloire, une sorte de hache à court manche de bois et à long tranchant. Le père des Rosiers, qui assiste le supplicié, doit obliger l'exécuteur à le remettre sur le billot. 29 coups de doloire seront nécessaires pour que le cou de Chalais soit détaché du corps. Au 20e coup, il vivait encore.
Le siège de La Rochelle commence en 1627. Buckingham, fort amoureux d'Anne d'Autriche, au point qu'un portrait de la reine est suspendu et constamment éclairé dans la cabine de son vaisseau, Buckingham doit venir secourir les Rochelais. Madame de Chevreuse, dépêchée à Londres, lui a certifié qu'à coup sûr, cette action éblouirait la reine. Richelieu est mis au courant du projet de Boucquincamp. Il fait fortifier les îles de Ré et d'Oléron. L'Anglais quitte Portsmouth avec 110 vaisseaux et 6000 hommes. Le siège commence effectivement le 10 septembre 1627. Après que les Rochelais tirent sur l'armée royale forte de 20 000 hommes déployée tout autour de la ville. Toutes les voies de communication par terre sont alors coupées par Richelieu. La ville ne peut plus être approvisionnée. L'espoir ne peut donc venir que de la mer. Buckingham s'est installé à l'île de Ré le 22 juillet 1627. Richelieu lui envoie Henri de Schomberg, qui l'enchasse avant de le battre sur mer le 17 novembre. Boucquincamp, qui n'a ébloui personne, repart pour l'Angleterre. La ville se trouve bien isolée, sans possibilité de se ravitailler. Cependant, elle possède des réserves. Quasiment imprenable par terre, elle doit se résoudre à attendre la prochaine expédition anglaise. « Que faire ?» se demande Richelieu. « Attendre ?» Le cardinal n'est jamais à court d'idées. Il faut empêcher les Anglais de ravitailler les Rochelais. Comment ? En construisant une digue haute de 20 mètres, longue de 1500 mètres, qui laissera cependant par un étroit goulet passer la marée. Des bateaux enchaînés seront coulés de chaque côté pour renforcer l'ouvrage sur lequel des canons seront disposés. Cette entreprise gigantesque est réalisée par 4000 ouvriers.
Les Trois Mousquetaires d'Auguste Maquet. Publié en feuilleton en 1844 dans le journal Le Siècle, Les Trois Mousquetaires d'Auguste Maquet, écrit en collaboration avec Alexandre Dumas, ou plutôt l'inverse, est un roman de cap et d'épée qui met en scène les amours d'Anne d'Autriche et de Buckingham. Anachronisme, liberté de toutes sortes prises avec l'histoire, invention insolite, la narration ne s'embarrasse pas trop de vérité historique. Inspiré d'un autre roman paru en 1709, Les Mémoires de Monsieur d'Artagnan, de Courtilès de Sandras, l'œuvre de Dumas Maquet, passionnant tourbillon d'aventure et de suspense, est l'une des plus traduites dans le monde. que les tirifères d'Alexandre Dumas ne se fâchent pas. Auguste Maquet, qui réunissait la documentation nécessaire à Dumas et écrivait le premier jet, n'est ici présenté comme le véritable auteur des Trois Mousquetaires que par taquinerie. C'est tout.
Les vivres commencent à s'épuiser dans la ville de La Rochelle. Les troupes royales, elles, sont grassement nourries. Le 30 avril 1628, les Rochelais élisent un nouveau maire, le plus déterminé d'entre eux, Jean Guiton. Au début de mai, des dizaines de navires anglais arrivent face à La Rochelle, bourrés de vivres et d'armes. Ils doivent faire demi-tour. La famine s'installe dans la ville. Alors une décision incroyable est prise dans la ville assiégée. Comme à Alésia, rappelez-vous, on décide de faire sortir les bouches inutiles, les femmes, les enfants, les vieillards. C'est un spectacle pitoyable et déchirant qui commence. Ces pauvres êtres chassés de leur ville s'en vont vers les lignes des troupes royales qui les empêchent d'approcher en déchargeant leurs fusils sur eux, en les canonnant. Par centaines, ils errent des jours sans espoir, dans une longue agonie que le silence des siècles couvre encore. Dans la ville, la situation ne s'améliore pas. Une deuxième expédition anglaise a échoué devant la digue qu'elle a tenté d'incendier. Les Rochelais ont mangé leurs chevaux, leurs chats et leurs chiens. Ils dévorent les rats et vont même plus loin. Le 3 octobre, de nouveau les Anglais arrivent en vue, mais ils ne passeront pas, malgré un échange de 5000 boulets. La ville se rend le 28 octobre. Il y avait 28 000 habitants à La Rochelle. Ils sont 5500 survivants, à qui Louis XIII accordera son pardon.
Poule mouillée. À La Rochelle, Richelieu n'était pas seul. Richelieu, le cardinal vêtu de pourpre, l'éminence rouge, n'a jamais été seul. Dans l'ombre, une autre éminence, l'éminence grise, couve et conseille le ministre de Louis XIII. Un jour même, au moment où les Espagnols envahissent la Picardie en 1636, cette éminence grise traite l'intraitable cardinal de « poule mouillée » parce qu'il craint pour sa personne en allant se promener dans Paris. L'éminence grise s'appelle François-Joseph Leclerc du Tremblay. Sa mère appartient à la famille Lafayette. D'abord soldat, il devient un capucin exemplaire qui se rend indispensable auprès de Richelieu en créant le premier service secret européen, d'une redoutable efficacité, composé de toutes sortes d'espions qui permettent non seulement de connaître tous les plans de l'ennemi, mais aussi d'agir pour l'affaiblir. Le père Joseph se déplace où Richelieu ne peut aller s'il ne veut trouver la place occupée à son retour. Il met en œuvre des plans diaboliques pour parvenir à ses fins. Ainsi, pendant la guerre de 30 ans, l'éminence grise tente par exemple de soudoyer le plus valeureux des généraux de l'empereur d'Autriche. Ce général n'est pas sourd aux propositions financières qui lui sont faites. Aussitôt, le père Joseph s'en va trouver l'empereur et lui révèle que son fidèle général est prêt à se laisser acheter. L'empereur n'hésite pas. Il sacrifie son plus grand chef. Le père Joseph se frotte les mains. Un saint homme, le père Joseph ? Vous pouvez en juger.